Le message que vous allez suivre est un enseignement de la pastorale pour la propagation de l'Évangile. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. PPE, propagez l'Évangile pour le salut de la multitude et la joie du ciel.
Alléluia. Alléluia. Tu dis après moi, Jésus, j'ai confiance en toi. Viens au secours de mes faiblesses et sauve les âmes qui se perdent. Esprit Saint, éclaire-moi. Parle à mon cœur. Instruis-moi. Conduis-moi sur le chemin de toujours. Le chemin de la vérité. Le chemin de la vie. Le chemin de la connaissance. Esprit Saint, remplis-moi de toi. Vide-moi de moi-même. Remplis-moi de toi. Éduque-moi. Tout au long de ce séminaire, dispose mon cœur. Donne-moi de ne pas passer à côté de cette opportunité que tu me donnes afin de transformer mon histoire, afin d'enjoliver mon histoire. Esprit Saint, prends le contrôle de mon être, prends le contrôle de ma vie. Amen. Posséder sa possession. Le premier thème aujourd'hui, c'est... Je vais expliquer pourquoi on a dit posséder sa possession. Le premier thème aujourd'hui, c'est la connaissance des peuples qui occupent notre Canaan. La connaissance des peuples qui occupent notre Canaan comme élément indispensable pour réussir notre conquête. La connaissance des peuples qui occupent notre Canaan comme élément indispensable pour réussir notre conquête. Parce que posséder sa possession, c'est aller conquérir Canaan. Donc, il faudrait bien noter, il faudrait bien suivre. Il faudrait bien suivre. Pourquoi, après avoir fait le séminaire sur la prospérité financière, pourquoi on est venu parler d'un autre séminaire? C'est important en ce sens qu'on est en fin d'année et on va passer à une autre étape. Bon, nous, on est déjà dans une nouvelle année, mais... Selon le calendrier grégorien qu'on suit partout dans le monde, c'est une nouvelle porte de saison qui s'ouvre aussi devant nous. Et ces nouvelles portes de saison, il faudrait pouvoir les posséder. Amen. Il faudrait pouvoir posséder ces portes-là. Il faudrait pouvoir entrer en pleine possession de son héritage. Nous sommes chrétiens et bien souvent, ce que je remarque, c'est que nous sommes malmenés par l'ennemi. On est en fin d'année. Posséder ses possessions, c'est... quelque chose de très important. Toute la vie chrétienne consiste en la possession de sa possession. Toute la vie chrétienne. Parce que Paul dit, laissant derrière moi le passé, je cours droit vers le but. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Je cours droit vers le but. Afin d'obtenir la couronne qui m'est due. La couronne qui m'est due. Donc, toute notre vie chrétienne est une phase où on court pour posséder ses possessions. C'est-à-dire, la vie chrétienne consiste en fait en la matérialisation, si vous voulez, du royaume des cieux dans la vie du chrétien, tous les jours. Tous les jours, le royaume des cieux doit être vu, doit être touché, doit être senti, doit être connu, doit être pratiqué par tous les chrétiens. Mais c'est quoi encore le royaume des cieux? On a tellement prêché là-dessus, le royaume des cieux. Donc, posséder ses possessions, ce seront des moments de prière. On va faire tout ça, mais quand on va finir un truc comme ça, la semaine, on va donner des exercices spirituels. Le premier sujet que nous allons traiter, c'est la connaissance des peuples qui occupent notre Canaan comme élément indispensable pour réussir notre conquête. Je peux reformuler encore, c'est la connaissance indispensable des peuples qui occupent notre Canaan pour réussir notre conquête. La connaissance indispensable des peuples qui occupent notre Canaan pour réussir notre conquête. Pourquoi? D'abord, il faut savoir que Nous allons voir ça tout à l'heure. Il y a sept peuples qui occupaient Canaan. Sept peuples. Et comme j'ai dit, posséder ses possessions, c'est important de connaître son ennemi avant de pouvoir s'engager dans une bataille. Ou bien, tu ne connais pas ton ennemi, tu veux aller faire palabre, mais il va te frapper. Si tu ne sais pas que ton ennemi là, si tu ne sais pas que ton ennemi a une puissance de frappe que tu ne peux pas contrer, bien évidemment, il va te fatiguer. La connaissance indispensable des peuples qui occupent notre Canaan pour réussir notre conquête. Ou encore, la connaissance des peuples qui occupent notre Canaan comme élément indispensable pour réussir notre conquête. C'est-à-dire quoi? Il est important de savoir Canaan c'est quoi? Il est important de savoir les ennemis qui occupent notre Canaan c'est qui? Comment les vaincre? Avec quelle âme? Et qu'est-ce qu'on fait d'eux réellement? Est-ce que ces ennemis-là, mais ce n'est pas nous-mêmes? Tout ça. Donc, vous voyez que c'est très important qu'on ait cet aspect-là, qu'on connaisse ça. L'objectif de cette formation aujourd'hui, c'est d'abord de démasquer l'ennemi dans notre vie, dans notre entourage. Le premier objectif, c'est ça, démasquer l'ennemi. Deuxième objectif, c'est le vaincre. C'est le vaincre. Chaque fois que cet ennemi va se présenter, arriver à le vaincre. Amen. En Luc 10, 19, Jésus... Démasquer notre ennemi d'abord, c'est le discernement des esprits. En 1 Corinthiens, le chapitre 12, versets 7 à 10, où Paul dit par le Saint-Esprit, « Or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue de l'utilité commune. » Et point pour point, il dit, « Et à un autre des discernements des esprits. » À certains, Dieu a donné plusieurs des dons, à un autre aussi, à Sylvestre, il va donner des dons, à Corneille des dons, à la modératrice des dons, à Cédric des dons, ainsi de suite. Et parmi ces dons-là, il y a quelqu'un parmi nous qui peut avoir le discernement des esprits. Et ça, c'est important. Donc, le discernement des esprits aussi, il y a le don de discernement des esprits, mais il y a aussi la connaissance même qu'on peut acquérir pour connaître les esprits. C'est pourquoi 1 Jean 4, 1 va dire, « Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. » On parle de discernement. Il dit, « Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut nous parler de Dieu que ça veut dire que ce qu'il dit vient de Dieu. Ou bien que lui-même, il vient de Dieu. Mais il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Donc, ça, c'était démasquer l'ennemi. La deuxième partie, c'est arriver à battre, vaincre l'ennemi. Ça, c'est plus que important. Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. » Donc, ça, c'est important. Je donne un deuxième verset pour vaincre l'ennemi. C'est quoi? En 2 Corinthiens 10, 4 à 5, la Bible dit, « Car les âmes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Donc, il est important qu'on ait la connaissance de Dieu. Et en menant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Donc, vous voyez, donc si on arrive à connaître notre ennemi et à le vaincre, on va emmener tout esprit à l'obéissance du Christ. Mais pourquoi il faut les vaincre? C'est parce qu'il y a eu un anathème sur eux. En Deutéronome, le chapitre 7, versets 1 et 2, Dieu même est clair là-dessus. Il dit, quand l'Éternel, ton Dieu, aura chassé de devant toi des nations nombreuses, le Hittite, le Gigashite, l'Amorite, le Cananéen, le Périsite, le Hivite et le Jébusite, sept nations, tu les détruiras entièrement comme un anathème. C'est-à-dire, c'est comme s'ils sont écartés, maudits par le Seigneur. Mais les sept peuples de qui il s'agit, on va voir ça tout à l'heure. En Josué 3, 10 aussi, on voit cela, tout ça. Mais il y a une symbolique biblique de toutes ces choses. On parle des sept esprits de Canaan, des sept peuples de Canaan, mais il y a aussi les sept esprits de Dieu. Quand on lit dans le livre de, je vous écoute, Apocalypse, il y a les sept esprits de Dieu. Il y a les sept esprits de Dieu, vous ne connaissez pas. Le chandelier, vous avez oublié tout ça. Pourtant, j'ai fait, vous avez lu la Bible combien de fois? Déjà au moins trois fois. Apocalypse 1, verset 4. Apocalypse 1, 4.
Apocalypse 1, le verset 4. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Mm-hmm. Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône.
Amen. Il y a les sept esprits de Dieu. Les sept, c'est pas Saint-Esprit sept fois, hein. Il faut faire attention. Il faut prendre Apocalypse 3, verset 1, rapidement.
Apocalypse 3, le verset 1. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit : Ainsi parle celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles.
Donc, quand on parle des sept démons, il y a sept également puissances que Dieu met devant nous pour nous aider aussi à marcher, pour lutter contre les sept peuples qui peuplent notre Canaan. Le Canaan, c'est quoi? C'est ça qu'il faut savoir. C'est la terre promise, n'est-ce pas? C'est lorsque Dieu nous fait sortir de l'Égypte. Écoute-moi. Tant que tu es en Égypte, tu ne connais pas de Canaan. Tant que tu es dans le désert, tu ne connais pas de Canaan. Et tu ne peux pas aller aussi à Canaan quittant de l'Égypte en occultant le désert. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas passer par une sorte d'épreuve. Mais non, tu ne peux pas passer de ta vie de chrétien là tout de suite. Mystère joyeux, hein? Mystère lumineux, puis paf, tu es dans mystère glorieux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Toi, tu sautes mystère joyeux, mystère glorieux en même temps. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens parmi nous, on retourne en arrière. On retourne à notre Égypte. Parce que dans notre marche, on pense que si je suis devenu chrétien, je ne vais plus souffrir. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Non, je ne souffre plus. Quand on dit je ne souffre plus, c'est dans le sens où j'appartiens à Christ et je sais qu'il combat pour moi. L'Éternel combattra pour vous et vous, vous resterez tranquille. Exode 14, 14. Dans ce sens-là, les luttes que je faisais tous les jours, je sais que ce n'est pas de mon ressort. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Je me rends compte que ce n'est pas moi-même qui arrive à combattre. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates, combien? 2, 20. Donc, vous suivez. Donc, ça veut dire que je luttais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. La souffrance de laquelle on parle, écoute, quand on dit tu ne souffres plus, ça veut dire que l'ennemi ne va pas t'assujettir encore. Ou tu es en proie à tout ce qu'il va te dire. Mais tu es dans un combat. Quand, écoute, mon ami, quand par exemple il y a une tentation devant toi, tu luttes. Je fais, je ne fais pas. Je fais, je ne fais pas. Tu luttes, non? C'est une souffrance aussi. Hein? La souffrance morale de ça, là, c'est Dieu ceux qui connaît. Donc je voulais juste vous montrer qu'il y a une symbolique spirituelle. Ce qu'il y a dans le monde spirituel chez Satan, ça existe déjà chez Dieu. Écoute-moi, Dieu ne peut pas te demander de mener tel combat s'il n'a pas tout préparé pour toi afin de réussir ton combat. C'est pas possible. Il nous dit de vaincre les esprits de Canaan, mais parce qu'il a déjà prédisposé toutes choses pour que tu aies les sept esprits de Dieu. N'oublie pas, les sept dons de l'esprit, ça te permet de faire quoi? De lutter contre ça. Les sept peuples de Canaan, si tu veux, ce sont les sept péchés capitaux également. Mais on va en arriver. Je voulais juste souligner cet aspect-là. Donc, les sept peuples de Canaan, il faut penser aux sept esprits du mal, comme on a les sept esprits du bien. On continue. Quel intérêt pour nous dans cette histoire? Il faut comprendre que les récits de la Bible et l'histoire du peuple d'Israël, en fait, en particulier, présentent plusieurs aspects. Aspects historique, aspect moral, aspect spirituel, aspect prophétique. Et Dieu nous parle en Romains 4, 15, 4.
Romains 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit jadis.
Or, tout ce qui a été écrit jadis.
L'a été pour notre instruction.
L'a été pour notre instruction. Donc, quel intérêt pour nous de vouloir étudier ça? Ce qui s'est passé avec le peuple, avec Josué, le combat qu'il menait, vous n'avez pas fait attention. Josué, c'est le même nom que Jésus. Et Jésus vient nous donner pleine possession. Je vous donne cette petite révélation. Il vient nous donner pleine possession de notre Canaan. Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il nous a rachetés et il nous a fait entrer dans le royaume de gloire. Mais pour nous faire entrer dans le royaume de gloire, il a dépouillé les autorités qui étaient sur le chemin. Ce sont les sept esprits, les sept peuples qui habitent Canaan. Et Josué est la préfiguration de Jésus. C'est pourquoi ils ont le même nom. Josué et Jésus, c'est le même nom. C'est Yoshua, c'est le même nom. Josué qui vient nous montrer le combat. Vous allez voir que Josué va combattre tout cela jusqu'à les défaire eux tous pour qu'eux prennent pleine possession. De la même manière, Jésus-Christ va venir, il va se charger de nos fardeaux, de toutes nos infirmités. Et quand il porte toutes nos infirmités, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ça à la croix, il cloue tout cela, on l'enterre. Et quand il ressort, c'est l'homme nouveau qui nous fait asseoir dans les lieux élevés. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un nouveau Canaan, dans un nouvel Éden terrible. C'est la même chose. Donc, on étudie Canaan, c'est parce que je veux qu'on étudie Canaan pour que vous compreniez l'importance du sacrifice de Jésus et que vous compreniez qu'est-ce que Jésus a fait. Parce que quand on dit bien souvent ce que Jésus a fait, les gens voient juste dont il est mort pour nous sauver. Mais nous sauver de quoi? Il devait combattre cet esprit qui était là, cette grande famille de démons qui était là, sept péchés qui nous minaient tant dans notre vie. Or, quand on parle de sept dans la Bible, on parle de plénitude. Mais ce n'est pas sept seulement. Il est en train de dire qu'il a combattu, il a pris toutes nos infirmités et tous les démons et tout ce que tu connais. On dit qu'il les a dépouillés tous, les autorités, les principautés, les souverainetés, tout ce que vous connaissez, il les a dépouillés. Donc vous comprenez que ce n'est pas simplement entrer dans Canaan comme ça. Hein. L'étude de Canaan, l'étude qu'on veut faire, c'est pour nous faire comprendre et d'apprécier le juste sacrifice de Jésus-Christ pour nous. En réalité, il devait juste enseigner comment Jésus s'est dépouillé pour nous sauver, tout ça. Mais quand on va parler du combat ici, vous allez mieux comprendre. N'oubliez pas que Jésus, Josué là, il était la préfiguration de Jésus. Tout ce qui était en train d'être relaté dans l'Ancien Testament a trouvé son plein accomplissement dans le Nouveau. Ce qui se déroulait dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau qu'on voit clairement. Quand les serpents mordaient les fils d'Israël dans le désert, hein, pour pouvoir être sauvé, il fallait lever les yeux vers ce serpent là, qui était cloué à la croix et avoir la vie, n'est-ce pas? C'était la préfiguration de Jésus-Christ qui a porté toutes nos infirmités sur la croix, afin que celui qui est mordu par le péché, le serpent qui nous mordait, c'est quoi? Rappelez-vous, quand Ève a péché là, Dieu dit, le serpent te mordra au talon. Donc celui qui te mord, tu lèves les yeux vers le serpent crucifié, donc Jésus-Christ qui a porté sur lui. Parce que n'oubliez pas, Jésus est devenu péché. Or, qui est péché? Satan. Je vais vous choquer. Jésus est devenu Satan. Le jour de la crucifixion. C'est fort pour vous, mais je vous dis, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il a porté l'identité de Satan pour qu'on puisse tuer Satan. S'il ne faisait pas ça, Satan avait quelque chose à te réclamer. De sorte que, quel que soit la difficulté ou bien quel que soit le mal que tu aurais vécu quelque part, quel que soit le péché qui te minerait quelque part, il suffit de lever les yeux, ton péché se retrouve là-bas. Parce que c'est le serpent ancien qui a été crucifié ce jour-là. C'est pourquoi je dis bien souvent dans les prédications que si Satan savait qu'en emmenant Jésus au poteau de la croix, c'était lui qu'on partait crucifier, il n'allait jamais le faire. Il ne savait pas qu'il était tombé dans son propre piège. C'est pourquoi pour nous, PPE, on dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Donc ce qui est en train de t'arriver, c'est dans la juste droite de ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Donc le jour-là, Jésus est devenu serpent quoi? Il est devenu l'adversaire de Dieu. C'est pourquoi, quand il va parler, il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pourquoi Dieu ne va pas l'abandonner? Dieu ne voit pas son fils. Il voit le péché. Il ne voit pas le pécheur. Il voit le péché. Il a rassemblé tous les péchés sur lui. Donc, quand Dieu regarde, là, il ne le voit plus. Il voit le mal. Et pour que le mal puisse être définitivement tué dans la vie des chrétiens, il fallait qu'il soit crucifié. Donc, dans l'Ancien Testament, un serpent mord le peuple d'Israël. Moïse dresse le serpent et puis dit, regardez là-bas, c'est Dieu qui nous parle. Il dit, regardez. Quand tu lèves les yeux automatiquement, vous n'avez pas fait attention. Donc, il a déjà prêché ça même à Ephata. Vous n'avez pas fait attention. Quand les serpents mordaient, est-ce qu'on tuait les serpents? C'est bizarre quand même, hein, parce que tu ne peux pas tuer un démon. Quand j'entends, je te tue. Toi, tu vas tuer quel démon? C'est quel démon tu peux tuer? C'est quelle prière toi tu fais comme ça? Vous n'avez pas fait attention. On dit, quand le serpent te mord, il faut lever la tête pour contempler la croix. Une fois que tu lèves les yeux vers Jésus-Christ, automatiquement, il n'y a plus de pouvoir sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas en fait de dire, je te purge, Satan. Je te découpe. Moi, j'entends des chrétiens en train de découper. Toi, tu peux découper vent. Je te découpe. Taillez. Toi-même, quand tu t'écoutes, là, il ne meurt pas les esprits. S'il mourait, Dieu l'aurait tué depuis. C'est pourquoi il dit, il y a un feu éternel. Parce qu'un esprit ne meurt pas. Ils seront dans un feu éternel. Ils seront là pour toujours. Même s'il veut, faut le découper. Qui a déjà regardé les films où quand on coupe sa repousse DBZ. Boubou. Qui a regardé Boubou? Voilà. Moi, j'aime bien DBZ. Hein. Regardez quand on met un kamehame sur lui, quoi, ça pèse. Ça coupe sa queue, ça tombe là-bas. Et quand ils sont en train de rire, et puis il est là, quoi, ça sort. Même chose aussi, fait ça. Hein. Satan petit queue. Bon, vous regardez tout ça, vous ne savez pas que c'est combat spirituel. Oh. Vous regardez pour égayer vos yeux. Mais moi, je vois le vrai combat spirituel. Avec Sangoku qui devient comme le sauveur. Qui donne sa vie pour les autres toujours. Jésus, on continue. Donc, vous voyez, c'est important quoi. Ce que je veux qu'on retienne d'abord pour commencer, c'est que tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament trouve son plein accomplissement dans le Nouveau Testament. Joseph, que ses frères ont rejeté, c'est la préfiguration de Jésus que les juifs ont rejeté. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Les bâtisseurs, c'était qui? C'était la construction de la maison de Jacob. C'est-à-dire, ceux-là qui étaient en train de former la nation d'Israël. Ils ont rejeté leurs frères. Or, c'est sur lui que Dieu devait s'appuyer pour développer cette nation. Si Joseph n'était pas là, la nation de Jacob aurait disparu. Totalement disparu. Si Jésus-Christ n'était pas là, les juifs n'allaient pas exister encore. Joseph est la préfiguration de Jésus. Ne lisez pas les choses comme ça. Il faut toujours voir, mais c'est pourquoi il dit maintenant tout est accompli. Et c'est pourquoi il n'y a pas de nouveau Testament. C'est-à-dire, il est venu bien expliquer les choses en sa personne. Sa personne est venue nous relater toutes choses. Amen. On continue. Donc, tu as compris l'intérêt pour nous. Hein, parce que tout ce que... Il faut prendre 1 Corinthiens 10, 6.
1 Corinthiens 10, le verset 6. Ces événements sont arrivés
pour,
pour nous servir d'exemple.
Pour vous servir d'exemple.
Afin que nous ne convoitions pas le mal.
Afin que nous ne convoitions pas le mal. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'est pour nous servir d'exemple. Dieu est en train de nous instruire, frères et sœurs. Amen. Donc, il faut bien suivre. La bataille qu'on va livrer contre le peuple de Canaan, c'est la lutte du croyant contre la puissance spirituelle de la méchanceté. Contre tout ce qui est méchant dans notre vie. Quelle est l'origine de cette peuple de Canaan? Ça, c'est important. Ces peuples-là, on voit en Genèse le chapitre 10, verset 1 et verset 6 et verset 15 aussi. Faut lire d'abord Genèse 10, 1.
Genèse 10, le verset 1er. Mm-hmm. Voici la famille des fils de Noé. Sem, Cam, Japhet. Mm-hmm. Il en acquit des fils après le déluge. Mm-hmm. Fils de Japhet, Gomer, mm-hmm. Magog.
Bon, faut aller sur les fils de Cam.
Fils de Cam. Mm-hmm. Cush.
Cush.
Mikraïm.
Mikraïm.
Pouf. Mm-hmm. Et Canaan.
Et Canaan. Très bien. Et Canaan engendra qui?
Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, le Jébusite, l'Amorite, le Girgashite, le Hivite, le Arkite, le Sinite, l'Arvadite, le Sémarite, le Amatite.
Donc, lui, il a engendré qui?
Sidon, son premier-né.
Heth. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et puis Heth. Et puis après, le Jébusite. Après?
L'Amorite.
Continue.
Le Girgashite.
Oui.
Le Hivite, mm-hmm. Le Arkite, mm-hmm.
Le Si. On voit bien que ce sont les enfants de Cam, n'est-ce pas? Dont leur origine, ce sont les enfants de Noé. Mais lequel des enfants de Noé a fait le peuple de Canaan? C'est Cam. Mais Cam, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Hein? Il a mis la nudité de son père dehors. Et il a été maudit. Mais ça veut dire quoi? Déjà, écoutez bien, parce qu'on va voir... Qu'est-ce que chaque peuple signifie, hein? C'est pourquoi, par exemple, il faut faire très attention. Si tu as un directeur spirituel, un père spirituel, ou bien ton père géniteur ou quoi, évite de mettre sa nudité dehors. C'est-à-dire, évite de faire en sorte qu'il ait honte devant les gens. Évite de parler dans son affaire. Tu sais pourquoi? La conséquence directe de ça, tu sais c'est quoi? C'est que de toi sortiront des peuples qui ne plaisent pas à Dieu. De toi sortiront des méchants. C'est pourquoi nos parents disaient avant, ce que tu me fais là, tu penses à moi, tu fais ça. Tes enfants vont te faire ça aussi. C'est maintenant que tu as compris. Uh-huh. Donc, quand tu es en train de parler mal à son père, c'est mettre sa nudité dehors. Parler mal à sa mère, c'est mettre sa nudité dehors. Critiquer son père, sa mère, ce que tu ne sais pas. Quand tu es en train de faire la conséquence, toi-même, tes enfants qui arrivent là, tu ne vas pas les supporter. Le comble, c'est que ces enfants-là vont devenir des monstres pour la société. Ils vont devenir des monstres pour la société. C'est ça le risque. Tu es là, tu parles. Faites attention, frère. Ne jamais mettre la nudité de ses parents dehors. Il y a des gens parmi nous, ils passent leur temps à mettre la nudité de leurs parents dehors. Vous n'avez pas le droit. C'est toi aussi, tu sais parler sur le serviteur de Dieu. Tu le connais où? C'est ton camarade. Tu es venu s'asseoir sous sa bâche et puis c'est toi aussi, tu te permets de parler dans son affaire. C'est pourquoi, moi je m'excuse. Tous ceux-là, malheureusement, hein, tu ne les maudis pas, mais ils vont récolter eux-mêmes ce qu'ils ont semé contre toi. S'ils sont partis et qu'ils ont mal parlé contre toi, je m'excuse. Ils n'auront jamais la faveur. Même si je demande pardon. C'est des principes. C'est pourquoi je suis en train de terminer bientôt mon magnifique livre là. Vous savez c'est quoi? Absalom et compagnie. Je suis en train de terminer. Quand je vais vous donner, vous allez lire. Je vais voir celui qui va être déloyal dans sa vie. Parce que dedans, j'ai passé à voir tout le comportement de tous ceux-là qui se liguent contre quelqu'un que Dieu a oint. Quand tu parles contre quelqu'un que Dieu a oint, c'est-à-dire, si tu te lèves, tu t'en causes avec quelqu'un de moi, Philippe, ton sort est clair. C'est biblique. Ton sort est déjà tracé devant. Et le Seigneur ne joue même pas avec. Il ne joue pas avec. C'est pourquoi aucun homme de Dieu qui va faire son truc, je vais parler dedans. Je ne sais pas comment Dieu l'a appelé. Je ne sais pas ce qu'il le lie avec Dieu. Qu'il ait fait, qu'il ait commis avortement ou qu'il ait couché à 10 000 femmes ou. Ce n'est pas mon problème. Si vous avez fait très attention, je vais mettre en relief dans ce livre-là, vous savez qui? David et son fils. David avait tous les droits d'attaquer, par exemple, Saoul. Mais David ne le faisait pas. Et le jour même que David a eu à couper son habit, là, le pan de son vêtement. Après, il s'est repenti. C'est de couper le pan de son vêtement. C'est entamer une partie de son autorité. Quoi? David a regretté ça. C'est pourquoi lui aussi Dieu a arraché son royaume, une partie de son royaume. C'est que ce qui devait arriver à Salomon, c'est depuis longtemps. C'est que David avait coupé, il a pris là. Il a pris la plus petite portion. C'est pourquoi quand Israël va être divisé, il a eu la plus petite portion. Vous pensez que affaire de Dieu, on joue dedans? Vous pensez? Parler comme un serviteur de Dieu, tu attires la foudre, la malédiction sur ta vie. Quand je vois les gens sur Internet en train de parler, voilà pourquoi ils ne réussiront jamais dans ce qu'ils font. Tu ne le connais pas, tu te tais, tu fermes ta bouche. Si tu es fâché, prends aussi, tu as devenu serviteur de Dieu. David ne l'a pas fait, parce qu'il savait les conséquences. Et le jour que son fils a eu à faire ça, c'est la mort. Écoute-moi, quand tu te lis contre un serviteur de Dieu, en réalité, vrai, vrai, ton sort, c'est la mort. Tous ceux qui se sont ligués contre Moïse, Dieu les a tués. Vous imaginez, il a ouvert la terre, il a enterré 14 000 personnes en une seule journée, le Seigneur, parce qu'ils ont parlé contre Moïse. 14 000 personnes, même guerre là, on n'entend pas ça. Tu ne connais pas, tu te tais. Un, deux, ils sont en train de parler de leur affaire, ce n'est pas ton histoire. Tu quittes là même, parce que, écoute-moi, le fait même de s'asseoir avec des personnes qui parlent mal d'un serviteur de Dieu, tu attires la foudre de Dieu sur toi, parce que tu cautionnes. Mon livre va sortir bientôt, Absalom et compagnie. J'ai bien mis et compagnie, c'est-à-dire que c'est une société qu'ils ont créée, Absalom & Co. Et cette compagnie-là, je vous dis, la fin de cette compagnie, c'est la faillite, bankruptcy, c'est la faillite totale. Ça veut dire que vous ne prospérerez jamais dedans, faites ce que vous voulez. Si vraiment il a été appelé par Dieu, si vraiment quelqu'un a été appelé par Dieu, il faut parler contre lui. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Celui qui est intelligent et qui lit la Bible, il dit « Attention, frère, c'est pas là-bas on doit marcher. » Il ne faut pas parler contre lui. Revenons à notre histoire. C'était une parenthèse pour Absalom et compagnie. Ça doit sortir normalement avant la fin de l'année. Dieu met à nu le comportement gauche qui se trouve dans l'église. Où vivaient, on va parler de l'habitat, où vivaient les peuples de Canaan, à votre avis? Où vivaient-ils? Genèse 10, 18 à 19.
L'Arvadite,
le Sémarite,
le Hématite. Les clans des Cananéens se disséminaient ensuite et le territoire cananéen s'étendit de Sidon vers Guéra jusqu'à Gaza, vers Sodome et Gomorre.
Très bien. Vous avez vu, hein? Vous avez vu où ils sont situés, non? Hein? De Sidon. Toujours, c'est pas la bande de Gaza, il n'y a pas là-bas. Très bien. Ce n'est pas Sodome et Gomorre qui a été détruit là. Quand tu mets la nudité de ton père dehors là, ton héritage qui t'attend, c'est un endroit qui sera détruit forcément par le Seigneur. Il prendra son temps. Tu le connais mal, le Seigneur là. Tu le connais mal. Voilà une femme qui s'appelle Myriam, la grande sœur de Moïse. Elle-même, c'est elle qui sauve l'enfant. Elle encore, elle s'en va chez les Juifs et chez les Égyptiens. Elle sauve encore l'enfant pour l'emmener à la maison. Tout ça là, il grandit. Donc on peut dire que c'est sa maman là. Cette dame là, un jour Moïse parle, elle dit à son frère Aaron, lui veut dire quoi? Il veut dire que c'est lui ce qui est oint ici. Écoute-moi, Dieu l'a frappé de lèpre en même temps. Dieu n'aura pas pitié de toi parce que tu m'as aidé. J'insiste là-dessus. Même si tu m'as aidé, tu m'as donné à boire un jour, Dieu n'aura pas pitié de toi, il va te frapper. Parce que quand il m'appelait, tu n'étais pas là. Quand il me mettait pas, tu n'étais pas là. Quand il me faisait payer un prix, tu n'étais pas là. Comme Moïse était dans le désert pendant 40 ans, Aaron était avec Myriam à la maison. Dis à quelqu'un, pendant 40 ans, tu étais où? Il y a bien, retenez, hein? Absalom et compagnie, ça arrive. Il y a parlé de Myriam, il y a parlé de les gens mauvais qui sont dans nos églises là. Je vais faire la peur, va vous envahir. Et vous allez comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'il faut, il faut restituer les choses. Venons à notre histoire. Dans notre histoire, on dit que les Cananéens habitent tout ça à Sidon, Guéra, Gaza, jusqu'à Sodome et Gomorre. Je ne veux pas être trop long ici. C'est pas leur mode de vie. Comment vivaient ces peuples là? La plupart de ces peuples, c'était des cités-états. Comme ils sont mauvais, c'est bizarre, mais les peuples de Canaan n'ont jamais été capables de former une seule fédération d'État pour dire c'est un seul royaume. Parce que déjà, même lui-même l'a attaqué. Et comme on t'a maudit, tu seras divisé. Vous allez vous diviser comme ça, comme le pape en son temps. Le pape, si il y a bonne mémoire, Grégoire ou bien Georges IV. Non, Grégoire. Grégoire avait dit à Luther, à ceux-là qui quittaient l'église. Il dit... Le pape était tellement fâché, même si Luther avait des raisons qui étaient fondées pour certaines, les 96 thèses de Luther. Certaines étaient fondées, mais vous savez ce que le pape va dire? Il va dire tout comme vous êtes sortis de l'église, vous allez continuer à vous diviser comme ça jusqu'à ce que Christ revienne. Vous ne voyez pas que toutes les églises évangéliques se divisent et ça va continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Or, la Bible dit ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. C'est fini, Dieu ne revient pas là-dessus. Après, Luther est venu demander pardon. Le père dit, j'ai compris, mais c'est déjà fait. C'est parce que vous ne connaissez pas la puissance de ceux qui sont que Dieu mandate. Ou bien c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont. Moi, celui qui parle contre moi, je le livre à Dieu. C'est comme ça qu'il fait maintenant. Certains qui ont fait ça, il les a livrés quand après il y a eu pitié, moi-même, Dieu allait les tuer. Et puis il dit, il faut avoir pitié. C'est comme ça qu'il fait. Il ne veut même pas avoir pitié. Vous êtes là, vous parlez d'affaires des gens. Occupe-toi de toi. Pourquoi? La Bible dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Si je dois rendre compte à Dieu pour moi, pourquoi je vais m'occuper d'affaires de quelqu'un? Quelqu'un me suit. Si tu dois rendre compte à Dieu pour toi, pourquoi tu vas t'occuper des affaires de quelqu'un? Quand on est en train de parler là-bas, tu dis, hey, mon frère, je ne suis pas concerné. Moi, quand on est en train de parler de quelqu'un, il dit pardon. 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 Il ne faut pas venir mettre ton péché là sur moi. Si toi seul, tu veux parler contre le serviteur de Dieu, là, il est là-bas. Il y a une histoire qui s'est passée au sein de la communauté, je ne vais pas vous dire dans le détail. Mais il y a eu un prêtre qui s'est levé, qui était en train de raconter certaines choses contre notre président du conseil des serviteurs. Il me connaît mal, ce prêtre-là. Moi, je m'en fous. Hein. Je lui ai dit, mon père, calme-toi, il n'y a pas de problème. Moi, je l'appelle tout de suite. Il dit, non, il ne s'agit pas de ça. Il a dit, non, il ne s'agit pas de ça. Je l'appelle tout de suite, on va régler ce problème-là. Ce que tu as dit là, tu vas répéter devant lui, vous allez tirer ça au clair. Le prêtre là ne me parle plus, je m'en fous. Je l'ai appelé, j'ai appelé le président du conseil. Il a dit, assieds-toi, il faut aller voir tel prêtre qui est en train de dire ça de toi. C'est pas normal qu'on dise ça de toi. Il dit, mais papa, c'est pas vrai. Il a dit, alors va. Quand ils ont fini de parler, jusqu'à aujourd'hui, le gars il ne me salue plus. Parce qu'il pense que je vais rentrer dans la compromission. Jamais de la vie. Didier, c'est un serviteur de Dieu. Même s'il est mon fils, c'est un serviteur de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu lui a dit dans le secret là-bas. Moi, Philippe, je vais ouvrir ma bouche pour parler. Qui m'a envoyé? Un chrétien n'est pas là pour diviser les gens. Comprenez bien. Un chrétien, chaque fois que vous allez arriver quelque part et qu'il y aura un esprit de division, sachez que c'est Satan qui est en train de vous animer. Si vous venez parler dans un foyer, dans le couple de quelqu'un et qu'ils sont en train de se diviser, c'est Satan qui vous anime, c'est pas Dieu. Un chrétien n'est pas là pour diviser. La seule chose qu'il fait, c'est amener la vie de Dieu. Par exemple, vous êtes dans une famille et puis toi tu acceptes Jésus-Christ, tout le monde est fétiché, on veut te tuer là-bas, il va dire sors de là. Parce que c'est biblique. Mais tu sais, ta grand-mère, elle est sorcière. Mais depuis, elle ne me mange pas. Hein. Chose marrante, c'est le jour que tu acceptes que ta grand-mère ou ton grand-père ou bien ta maman est sorcière, c'est ce jour-là que tes problèmes commencent. Pourquoi? Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Et comme tu viens de soupçonner le mal, Satan s'invite dans ton foyer, s'invite dans ta maison, s'invite dans ta vie. C'est biblique. Toi, toujours, tu vois les gens sorciers. Moi-même, là, je connais dans ma famille, je sais qu'il y a des sorciers, mais je vais leur donner de l'argent bien même. Ça ne peut rien me faire même. Pourquoi? Parce que l'amour supplante tout ça. Si tu aimes, c'est une barrière de protection pour toi. C'est pourquoi il y a certaines personnes parmi vous, Dieu va jamais te montrer qui est sorcier chez toi. Un jour, je priais pour quelqu'un, puis quelqu'un dit. Un jour, je causais avec quelqu'un qui dit, j'étais en train de parler, puis je donne une parole. Il dit, excuse-moi, mais j'ai vu comme un esprit de sorcellerie quelque part autour de toi. La personne dit, dis-moi, j'ai fini avec elle. Il faut finir avec un sorcier là. Je lui ai dit, tu vois, c'est à quoi ça Dieu ne peut jamais te montrer. Parce que le jour que Dieu va te montrer là, peut-être tu vas prendre machette. Il y a des gens à qui Dieu ne montrera pas le sorcier de leur famille. Hein. Mais il y a d'autres à qui il peut leur montrer, ils savent. Et puis vivent leur foi chrétienne et rien ne leur arrive de mal. Mais toi, ton cœur est mauvais. Le mode de vie des Cananéens, peut-être des cités-états comme il a dit, c'était des petits royaumes qui s'étaient constitués. Les rois en question avaient des pouvoirs très étendus. Ils contrôlaient directement les affaires militaires, politiques, économiques, religieuses. Tout ça, les rois avaient tout ce pouvoir. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme toute famille juive, toute famille orientale, la famille était l'unité de base de la société là-bas. Et il y avait des corporations aussi de travailleurs. Hein. Par exemple, on avait des castes de forgerons, on avait des bergers, des bouchers, des potiers, des maçons. Mais il y avait une grande différence entre les patriciens, c'est-à-dire les personnes aisées, et puis les serfs de classe inférieure. Leur religion, le dieu cananéen, c'est quoi? Qui connaît? Vous le connaissez? Baal. C'est Baal. C'est le dieu cananéen, Baal. Mais ce n'est pas lui seul. Il y avait les Astarté, tout ça. Donc les Cananéens avaient un grand panthéon de dieux dirigé par elle. En pratique, Baal, son nom aussi c'est Hadad. C'est encore ça le nom Hadad. Hadad, ça veut dire le dieu de l'orage. Donc, ils avaient Baal et Dagon, les plus importants. Ils avaient plusieurs dieux, mais il y avait Baal et Dagon. Dagon, qui était aussi, d'autres disent Dagon, qui était un dieu très dangereux. Donc, dans plusieurs textes anciens, on voit qu'on parle de bétail, de brebis, d'oiseaux sacrifiés à ces dieux. Même il y avait des sacrifices humains. Leur religion était bizarre. Il a dit Baal, non. Les déesses dangereuses là-bas que vous connaissez, il y avait Akera ou Astarté. Astarté. J'ai vu ça sur l'autoroute quelque part là-bas, Astarté. Hein? Après Ibis, non. Ils ont mis Astarté quoi là? Hein, luminaire. Hé! Quand j'ai vu ça, il dit oui! Tu vas aller payer en poule pour mettre la vieille mère des sirènes des eaux chez toi, Astarté. Astarté, tu mets ça chez toi. Quand tu allumes la nuit comme ça là, elle-même elle brille comme ça dans ta. Attends, tu vas voir. Les gens s'amusent, hein? On met des noms, ils disent oh, mais ben, ça c'est un nom. C'est un nom. Attends, tu vas voir. Ça arrive. Astarté, c'était la déesse du sexe. C'est-à-dire que quand tu vas mettre le luminaire là, tu comprends pas? Excusez-moi, toujours tu es comme ça. Vous vous amusez mal. Tu es une jeune fille, toujours tu es là, tu es en train, ta mère dans ton caleçon en train de te gratter là où il faut pas. Moi, je vois des jeunes filles faire ça tout le temps. Ça, c'est quelle femme ça là? Tu me fais peur en même temps. Et puis, ils avaient un autre dieu qui s'appelle Anat. C'était le dieu de la guerre. On va parler de leur caractère. Ils étaient plus nombreux et plus forts qu'Israël. En Deutéronome 7.1, on voit ça. Ils étaient plus nombreux et plus forts. Il n'y a rien à faire. Ils avaient la haine envers l'Éternel. En Deutéronome 7, verset 10, ce peuple avait la haine envers l'Éternel. Mais on parle de cette sirène des eaux, tout ça là. Elle ne peut pas aimer l'Éternel. Ils avaient des cultes de faux dieux. Image taillée, Deutéronome 7, verset 5. Ils avaient une vie dans la grande iniquité. Ils étaient dans la débauche totale. Genèse 15, 16. Donc, face à eux, que fallait-il faire? Le Seigneur avait donné des points. Face à eux, l'Éternel avait dit, il avait expliqué aux enfants d'Israël la conduite à tenir. En Deutéronome 7, 2, il a dit, ne point traiter d'alliance avec eux. Vous suivez hein, tout ce qu'on va faire là. Il faut bien noter, ne point traiter d'alliance avec eux. Le peuple de Canaan, vous allez comprendre. Dans notre entreprise, il y a des Cananéens qui sont là. Il y a les Hittites, il y a les Hivites, les Jébusites. Quand je vais finir l'enseignement, tu vas voir. Quand quelqu'un va avoir un certain comportement, tu as dit, ça c'est un Hivite. Je viens de le déterminer. Je ne m'amuse pas. La bergère Marie-Dominique me le disait. Elle dit, depuis qu'on a fait cet enseignement, je reprends l'enseignement, c'est ça. Mais je vais le résumer quoi. Elle dit, depuis qu'on a fait l'enseignement, depuis, ça l'a aidé à discerner dans tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire, quand elle voit un homme, par sa manière de réagir, on a vu ça. Donc, quand elle regarde, elle dit, lui là, c'est un Jébusite, donc il faut se comporter comme ça, comme ça. Par exemple, elle dit, le nouveau patron est arrivé, tout le monde dit, non, il est compliqué, il est comme ceci, comme cela. Puis elle dit, mais non, il n'est pas compliqué. Les gens disent, ah, mais comment, toi, c'est sa fille chérie, c'est ça. Elle dit, mais c'est normal. Elle dit, papy, ce que tu nous enseignes, il a ouvert mon cahier, il a regardé, il dit, ah, c'est lui là, son comportement, c'est ça. Donc, ce qu'on a appris, là, comment aborder ce genre de personnes, elle a mis en place. C'est fini. Il est devenu sa partenaire. Il est devenu son partenaire, c'est pas fini. Quelqu'un me suit, hein? Tu sauras comment leur parler désormais. Lévitique 18, 3 dit, ne pas adopter leurs coutumes. Donc, si on ne doit point traiter d'alliance avec eux, deuxième chose, ne pas adopter leurs coutumes. Vous me suivez? Ne pas adopter leurs coutumes. Troisième élément face à eux, il ne faut pas les craindre. Deutéronome 7, 18. Il ne faut pas les craindre. Deutéronome 7, 18. On n'a pas le temps de lire. Hein. Quatrième élément, il ne faut pas servir leur Dieu. Les images taillées, Deutéronome 7, 16. Cinquième élément, Dieu dit de détruire leurs autels et leurs dieux eux-mêmes. Tout autel satanique qu'ils dressent dans les entreprises, tout ça, tu détruis ça. Sixième, ne pas désirer leur argent ou leur or, c'est-à-dire ne pas les envier. Parce que les Jébusites, les Amorites par exemple, et puis les Cananéens, ils sont riches, ils sont prospères, ils sont arrogants, les Amorites surtout. Ils sont dans une certaine fierté. Un orgueil qui ne dit pas son nom. Quand je regarde leur fierté, là, je vois que beaucoup, les Akans, ils sont dominés par les Amorites. Oui, je ne m'amuse pas. Je suis sérieux. Il y a ceux-là qui se vautrent dans le péché régulièrement. Là. On va parler d'eux. Les Grigachites, ce sont beaucoup les gens de l'Ouest. C'est ce qui fait que le sexe ne leur dit rien. Ils s'en foutent. Ils banalisent le sexe. Quand vous allez bien connaître cette histoire, quand vous allez voir tout ça, quand tu vois quelqu'un en train de réagir, tu sais c'est quel esprit qui l'anime ou pas. Ce n'est pas la personne qui est comme ça, hein, c'est l'esprit qui est derrière. Et donc tu sais que, attention, ma manière de lui parler, ma manière de faire, Dieu dit de ne pas pactiser avec ces personnes. Si je ne fais pas bien, va m'entraîner. Ce n'est pas plaisanter, ce n'est pas toi tu as venu dire, ah, mais c'est un gigachite, moi je vais le gagner à Jésus. Il faut le gagner d'abord. faut pas aller t'asseoir chez lui là-bas. Surtout les femmes là, c'est elles qui veulent convertir toujours l'homme dans le foyer. Donc Dieu dit de ne pas désirer leur argent ou leur or, c'est-à-dire de ne pas les envier parce qu'ils sont très riches, très prospères. On les voit partout, hein. Ils sont là. Quand il n'y a pas de richesse, prospérité, vous les voyez. Et Dieu dit de les détruire entièrement. C'est-à-dire, il faut, ça doit disparaître de ton esprit. En Deutéronome 7, verset 2, verset 16 et verset 24. Mais quelle a été la réalité dans ce combat qu'ils ont eu à mener? Le peuple d'Israël, quoi. Quand on lit le livre de Josué, vous allez voir que ils n'ont pas respecté ce que Dieu a dit. Dieu a dit de les détruire entièrement. Ils n'ont pas respecté. Par exemple, le peuple de Gabaon. Ils sont venus tisser alliance avec eux. Or, les Gabaonites, je vous ai dit, c'est quel peuple? C'était les Amorites. Ils ne les ont pas détruits. Donc, ça va influencer leur manière de faire. C'est pourquoi les Juifs vont commencer à dévier. Parce que Dieu a dit, tu n'auras aucun commerce avec eux. C'est nous tous, c'est notre vie chrétienne. Où Dieu nous donne des interdits là. Et puis, il y a certaines choses que nous gardons par devant nous. On cache ça. Tu ne pourras jamais t'en sortir dedans. Forcé. Donc, est-ce que le peuple a obéi à Dieu? Non. Ça, il faut retenir. Josué 9, on parle de la ruse des Gabaonites. La ruse des Gabaonites. Juges 3, 1 et 5, je lis. Et ce sont ici les nations que l'Éternel laissa subsister pour éprouver par elles Israël. Donc, Dieu n'a pas supprimé tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait Israël avait encore des caractères qui montraient qu'ils avaient une tendance à faire comme les autres. Donc, Dieu dit, bon, comme c'est ça là, ceux-là, tu n'as pas tous les vaincre, tu vas voir. Donc, ils ont fait qu'il y a un peuple qui est resté. Et puis, régulièrement, on voyait qu'ils influençaient Israël. Quand ils font ça, Israël dit, ah d'accord, on fait comme eux. C'est le cas, par exemple, on arrive dans une société, Dieu te positionne. Et puis maintenant, tous les jours, on te parle d'after work. Ce fameux mot, after work. After work, we go home. Après le travail, on doit aller à la maison. Mais ils s'en vont s'asseoir. Et puis, on t'influence. Non, tu sais, aujourd'hui, l'after work se tiendra dans tel bar. Ça commence. Tu dis, ah, mais ça, là, c'est le travail. Oh. S'ils ne veulent pas, là, ils vont dire, c'est comme ceci. Oh. Ils vont dire, non, je me mets à pas. Oh. Ça commence, hein? Et puis, dans l'after work, on dit, bon, ce n'est pas tous les jours, tu sais, c'est une fois par trimestre. Donc, là, il faut, on s'égaye. Et puis, quand on s'assoit là-bas, c'est pour raconter n'importe quoi. Et tes oreilles sont là pour écouter tout ça. Si tu es chrétien, que tu es dans un environnement, les gens parlent de bêtises. Et que tu arrives, ils continuent de parler. C'est-à-dire que pour toi, ils t'ont mis dans bêtises, là, tu es dedans. Quelqu'un a compris ce qu'il a dit? Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, par exemple, de sexe. Si tu es pudique et que tu es chrétien, ils ont peur de toi. Ils vont arrêter tout de suite. Mais quand tu viens, même, on continue de parler, on parle plus fort pour que tu entendes. Ça veut dire que tu n'as aucun impact et ils veulent t'entraîner avec eux. Et ils vont t'entraîner avec eux. Ah, vous commencez à réfléchir à vos vies. Regardez vos vies là. Regardez. Normalement, ta chrétienté fait qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Quand ils sont en train de parler, ils te regardent là. Et puis, s'ils parlent de ça, que toi aussi tu acquiesces une fois, tu as ouvert la porte. Quand ils sont en train de parler de ça, moi, il y a une fois, une de nos collègues qui m'a envoyé une mail où on a dit une femme au plateau était sortie un homme en chaîne. Quand elle a envoyé ça, il dit c'est la première et la dernière fois que tu vas m'envoyer ce genre de choses. Elle dit non, il dit c'est la première et la dernière fois jusqu'à aujourd'hui. Elle ne peut plus me parler de quoi que ce soit. On parle des garçons, femmes, elle ne me met pas dedans. Jamais de la vie. Tu vas donner opportunité aux gens. La Bible dit, et ne donnez pas accès au diable. Jamais de la vie. Ils sont en train de parler de leurs bêtises et puis on te demande ton point de vue. Il dit, tu leur dis clairement, tu dis, quand vous parlez de ces choses-là, parlez entre vous. Ne me mettez pas là-dedans. Ici, on parle de travail, on parle d'évolution. Ne me mettez pas là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font? De manière subtile, je suis en train de vous donner, on n'est même pas encore dans l'enseignement, hein, mais de manière subtile, on parle de ça. Et puis on demande ton avis. Mais ce n'est pas ton avis, ils sont en train de faire. On est en train d'injecter dans ton esprit. C'est spirituel. On injecte. On injecte. Et quand on a vu que tu es friand ou bien tu es friande, ça t'attire, c'est quelque chose qui t'intéresse, on commence. Après, ils vont faire des allusions. Ah, ça là même, je disais ça à ma secrétaire. Il dit, écoute, ils sont en train de parler puis ils te disent. Je lui dis, ils te disent par exemple, ça là même là, ça là, les femmes, elle est à Nidon, ils disent, ça, les femmes à Nidon, elles gèrent ça avec tel homme. Et puis elle a souri. Il dit, tu n'es pas intelligente, tu ne vois pas où ils s'en vont. Après, ils avancent un peu plus. Ça là, c'est sûr que oh, ton mari là, il fait ça propre. Je dis, regarde où ils s'en vont. C'est graduel. Satan prend son temps. Hein. Je vous dis en même temps, vous toutes, surtout vous les femmes, de manière subtile, il vient doucement, doucement. Il met un mot, oh Dieu. Demain, il met un autre mot. Après, il met un autre mot. Au fur et à mesure, il dégrade la chose jusqu'à ce que ton cœur accepte. Il te fait une avance. Tu ne pourras même pas tenir. Tu ne pourras pas tenir, que tu le veuilles ou pas. Parce qu'ils ont préparé ton esprit. Voilà pourquoi ils sont en train de parler de leur bêtise. Tu quittes là. Si tu ne quittes pas, tu dis, je ne veux plus jamais que tu me parles. Moi, je me rappelle, en pleine réunion, j'étais en train de faire une réunion. On monte en comité de crédit, notre DG d'alors. On monte et puis quand je rentre net, il dit, l'homme de Dieu arrive. Il dit, le pasteur arrive. Il faut se taire, même si c'est mon patron. Pourquoi ? Devant moi, tu as dit ça. Mais je vais te reprendre. Moi, Philippe, je n'ai peur de personne. Je vais te reprendre. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu acceptes, ils s'en vont avec toi. Ils ont une intention. Satan, en fait, la personne même peut-être peut ne pas savoir ce qui est en train de parler. Mais elle est utilisée par Satan. Et Satan a son plan à moyen terme. Ce n'est pas aujourd'hui. S'il parle aujourd'hui qu'on voit ton comportement, que c'est rapide, on peut t'avoir. Mais il planifie, il voit que tu es dur. Donc, il fait un peu. Il positionne. Son objectif, demain, il va t'atteindre. C'est le cas des sœurs, des filles au travail où on dit, on va vous inviter. Il prend son temps. Ou bien, on va faire sortir de groupe. Mais c'est dit, si vous savez la vie chrétienne, là, quand on dit ça, maintenant tu quittes là, tu dis au revoir. J'aime bien cet aspect de ma femme. Tout ce que vous allez dire, non, on fait sortir de groupe, non, travail, elle ne va jamais t'écouter. Elle va dire, je m'en vais à la maison. Pourquoi ? Parce que c'est l'erreur que nous tous nous faisons. C'est disant que non, c'est en nous. Mais en nous, là, quand on va aller parler de là-bas, on ne parle pas de travail, on va parler de quoi ? On va parler de quoi ? Ça commence ? On dit non, c'est pour rire. Mais on va parler de quoi pour me faire rire ? On va parler de quoi ? On va parler de ce qui est caché dans notre cœur, que tu ne sais pas. Satan, il connaît. Tu penses que Satan ne connaît pas ton cœur ? Tu penses ? De manière subtile, il va faire sortir ça un peu. Finalement, le collègue que tu regardais, il commence à te plaire. Pourquoi vous n'êtes pas intelligente même? Pourquoi vous n'êtes pas intelligente? Ce n'est pas une injure, hein? C'est un père qui parle à ses enfants. Quand vous allez voir, vous êtes à la casserole. Et puis après, ils vont s'asseoir ensemble. Ils vont s'asseoir ensemble. Ils vont parler de ça. Ou bien, quand ils vont se retrouver après, ils vont dire, bah, je l'ai raté. Et puis le gars va dire, non, c'est pas fini. On le dit parce que nous, on est garçons. Vrai ou faux? On se connaît. On se connaît. Yeah. Quand des fois, vous, les femmes, vous êtes en train de dire telle chose, nous, on a déjà déterminé où le garçon en s'en va. Vous ne savez pas. Nous, on sait où il va finir. Donc, quand vous êtes en train de parler, on dit, non. Faut pas discuter à nous. Faut jamais le faire. On sait la finalité de ce qui a commencé là. On sait où ça va finir. Doumbia Yema. Non, dis-moi. Il a commencé à rire. On connaît. Vous pensez que quoi? Vous pensez que nous, on ne connaît pas? Regarde. Tout comme on est garçon, le même sentiment nous anime. Donc, quand un garçon commence, il dit telle parole. Moi, des fois, je suis la mode, elle dit non, telle personne. Quand tu dis telle parole, je sais ce que ça veut dire en même temps. Je lui dis, mais tu sais pas ce que ça veut dire? Elle dit non. Il dit, hein? Attends, tu vas voir. Bénissez Dieu de ce que Dieu a mis des gens à côté de vous. Vous alliez comprendre. Si vous connaissez le plan de Satan, dans ce qu'on va voir là, le plan de Satan, si vous connaissez, c'est comme ça Anaïs, ils t'ont eu. Doucement, mais sereinement. Yeah. C'est jeu de dames. Il pousse ici. Tu pousses là-bas. Il pousse ici. Et puis, tu sais ce qu'il fait? Après un moment, quand il voit que tu es intéressé, il te donne pion. Tu dis, hey, il est bouffé. Quand tu vas voir dedans, tac, 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 il ramasse comme ça. Et puis, dame, pow! Dame là, il a couronné, ça va, pion! Vous pensez que c'est un jeu? Vous pensez que. Non. Je ne m'amuse pas. Je suis au sérieux quand je suis en train de parler. Moi, je parle à mes enfants. Je dis toujours, si moi, ma vie chrétienne, il y avait eu quelqu'un pour me parler comme je vous parle, j'allais être le meilleur chrétien possible sur la terre. Moi, je n'ai pas eu quelqu'un. Dieu m'a forgé seul. Je n'ai pas eu quelqu'un. Je regarde comment les gens font. Et puis, j'apprends de mes erreurs. Il dit, donc, il ne devait pas faire comme ça. Mais vous, tous les jours, je parle. Vous ne m'écoutez pas. Regardez. C'est la fin qui va faire pitié. Moi, je suis convaincu. C'est la fin qui va faire pitié. Ce que je vous dis, que vous n'écoutez pas là. Regardez. Ne dites pas que vous n'avez pas dit. Moi, j'ai vu des sœurs. Elles ont couru quand elles sont venues me voir pour dire « Hé, homme de Dieu, tu avais raison. » J'ai dit « Ah bon ?» Mais ma raison n'a pas encore commencé. Hein. Je n'ai pas raison. Satan est subtil, il fait ça. Ce que tu aimes là, c'est ce qu'il va te donner. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'attire? Tu aimes des vidéos. Par exemple, je prends un cas. Si tu es une fille à qui on n'envoyait jamais des vidéos, par exemple, sur le sexe un peu, et puis on commence à t'envoyer, il faut comprendre ce que le garçon est en train de te donner comme message. Quelqu'un me suit? Si on ne t'envoyait jamais avant de messages comme ça, des choses comme ça, et puis maintenant, tu vois, un de tes amis, même en statut, il fait. Comprends le message qu'il est en train de te passer. Doucement. Il arrive. Il arrive. S'il y a des causeries qu'il n'avait jamais avec toi et que désormais, il se permet d'avoir, il a déjà jeté les dés. Il a lancé les dés. Il arrive. Il sait où il s'en va avec toi. Quand je suis en train de parler, j'espère que vous êtes assez intelligente pour commencer à réfléchir, pour voir est-ce que je n'ai pas fait des ouvertures comme ça et qu'est-ce qui est en train de se préparer contre moi. J'espère. Je suis garçon, mais les garçons, ils ne craignent pas Dieu, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Je vous dis, ils ne craignent pas Dieu. Ce qui les intéresse, ce n'est rien. Vous allez remarquer que lui, ce qui l'intéresse, il faut qu'il ait travail. Ça lui suffit. Et quand il a le travail là, il doit commander. Tu penses que c'est Dieu qui l'intéresse? C'est ton corps. Je le dis 10 000 fois. Écoute-moi. 10 000 garçons vont t'approcher. Sur les 10 000, peut-être il y a un. Sinon, 9 999 là. C'est ton corps qui regarde. C'est ton corps. Il ne fait que regarder ton corps. Comment est-ce qu'il peut jouir de ton corps? Comment il peut être rassasié de ton corps? Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai mal quand je parle. Parce que vous ne pouvez pas imaginer. Quand moi je suis là et que je vois par exemple des hommes qui enseignent nos soeurs et puis ils disent non, ton bébé il va regarder, mais toi, ça veut dire que, oh, il te disait il était amoureux. Pourquoi il ne peut pas te garder? Surtout s'il est seul. Pourquoi? Des gens qui sont seuls et puis il ne peut pas te garder. Pourquoi? Ce qui te disait là, c'est passé où? N'attendez pas. J'étais en train de lire le verset là, il dit, afin que ça vous serve d'exemple. N'attendez pas que ça vous arrive d'abord, je vous en prie. Pour dire non, ah, Daddy même était en train de nous parler, on n'a pas écouté. Je ne veux pas que ça vous arrive. Il n'y a pas plus grande humiliation que ça. Donc, quand ils sont en train de parler, ce qu'il a dit là, tu t'assois. Tu dis, depuis un moment là, tel camarade, maintenant là-bas, les messages qu'il m'envoie. Mais vous, quand on parle, vous dites, c'est mon camarade. Depuis quand femme et puis garçon sont camarades? Non, il faut me demander. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Parce que même s'ils sont camarades, on les met sur une île, les deux. Tu vas voir ce qui va se passer. Depuis quand femme et puis garçon sont camarades? Depuis quand? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Non, dites-moi, qui vous a dit ça? On est dans la chrétienté, même il n'y a pas camarade, c'est mon frère. Si ce n'est pas frère, c'est ma femme. Point. Sinon, c'est mon frère, c'est ma soeur. Camarade, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes chrétien, vous utilisez des thèmes païens. Non, c'est mon camarade. Non, c'est ma copine. Non, on marche ensemble. Que Dieu vous bénisse.
PPE, pastorale pour la propagation de l'évangile.